Bonjour Bruno.
Bonjour Marin. Alors, aujourd'hui, on va avoir une émission centrée sur un éditeur. Ce sont les éditions 2042, mais avant, elle s'appelait 2024. En 2010, Olivier Bron et Simon Liberman créent les éditions 2024. 14 ans plus tard, après plus de 82 livres édités, après avoir créé en 2019 la collection 4048 pour la jeunesse, 2024 devient 2042. Ce n'est pas juste un anagramme, mais bien un nouvel espace à arpenter. Nous serons avec Olivier Bron vers 14h05, 6 ou 7, et avec Simon Roussin à partir de 14h25. À tout de suite.
Écriture dessinée.
Bonjour à toutes et à tous. Vous l'avez entendu, Marin est à la technique. Et il y aura un peu de musique qui a été choisie par Simon Roussin. Ça sera deux extraits de l'œuvre de Béla Babet. Et puis, tout de suite, avant de centrer et de découvrir les éditions 2042 avec Olivier Bron, puis avec Simon Roussin, je voulais vous présenter une œuvre patrimoniale importante, c'est celle de Zozo. Ah oui, Zozo revient, c'est un petit événement, parce que souvent, les œuvres patrimoniales ne se font pas forcément suivies de reprises, mais là, cette nouvelle, nouveau livre de Zozo, Zozo revient, est signé Twiss, et il s'est inspiré, bien sûr, de Franchi, qui est un auteur italien, me semble-t-il. Et c'est une reprise tout à fait étonnante. Twist, c'est le sergent La Terreur. Et en fait, c'est un ancien lecteur de Zozo. Et cette série qui a été créée dans le journal français Terriquet en 1934, puis prépubliée dans François en 1936, et avec ce personnage d'un singe, en fait, qu'on voit tout le temps de profil, avec un seul œil, et puis il est souvent accompagné de crocs, et ce singe avait une puissance graphique que l'on peut voir dès dans les livres les plus anciens, et certainement c'est ce qui a plu à Twist, puisque beaucoup de lecteurs ont mémorisé ces récits de Zozo. Il n'y en avait pas eu beaucoup, 7 récits seulement, qui ont eu plusieurs rééditions. Et donc, à partir de 1940, il n'y avait plus de nouvelles histoires. Alors, Twist, ça fait vraiment une reprise où il reprend graphiquement, en fait, cette contrainte que s'était donnée Franchi avec ce personnage représenté toujours de profil avec un seul œil, et ça fonctionne très bien. Alors, il y a eu une sorte de plaisir, de contrainte, mais vraiment enthousiasmante, de reprendre l'esprit en utilisant les trames qui nous donnent vraiment cette connotation de l'époque que l'on peut voir dans les anciens livres. La trichromie bleue, rouge et jaune, avec parfois donc des nuances de vert, mais à ce moment-là, il y aura toujours que 3 couleurs. Et donc cet esprit très, très réjouissant, avec une sorte d'esprit d'aventure, avec ce personnage, ces personnages de Zozo et Croc. Il y a en plus une image avec un pop-up. Ça a été édité par La Cryptotonique, qui est un éditeur qui réalise un certain nombre comme ça d'éditions ou de reprises. Et donc, ce Zozo revient de Twist d'après Franky. Et on n'a pas de prix, et en tout cas il fait 32 pages, mais c'est un très bel objet avec ce pop-up au centre du livre. Eh bien, virgule, les moustiques arrivent. Par l'exigence de sa ligne éditoriale, la qualité de l'accompagnement des auteurs, la réalisation d'œuvres du patrimoine avec des partenariats comme celui avec la BNF pour la récente édition consacrée à Benjamin Rabier, Le ver de terre amoureux d'une étoile et autres récits, ou encore la création et la diffusion d'expositions et de tirages d'art, les éditions 2024 ont très tôt imposé leur label. Les éditions 2042 poursuivent et étoffent ce catalogue avec de nouveaux auteurs et autrices comme Laurie Agusti ou Timothée Osterman, entre autres, révélés par l'éditeur ou d'autres auteurs révélés par l'éditeur comme Sophie Guérive ou Tom Gold. FMUR fera son entrée au catalogue en 2025. Un changement de nom affirmé, comme nous l'explique Olivier Bron, co-éditeur des éditions 2042. Bonjour Olivier Bron. Alors, c'est assez étonnant et rare quand même, ce changement de nom. Alors, qu'est-ce qu'il va vous permettre ?
Alors, ce qui va nous permettre, ça on va voir. En tout cas, c'était quand on a monté la maison, on a créé 2024 en 2010 avec Simon Lieberman. Et 2024 sonnait comme un futur assez abstrait. On n'imaginait pas exactement d'ailleurs, enfin on réfléchissait pas très précisément à ce qu'on était en train de faire. Et je pense que cette insouciance d'ailleurs nous a pas mal aidé au début. Mais plus les années passaient, plus c'était devenu un peu la pirouette récurrente, si on s'appelle comme ça, c'est parce que si on tient jusque-là, c'est pas mal. Donc à partir du moment où 2024 était révolu, c'était important aussi pour nous de dire qu'on continuait d'être vivant, quoi, qu'on s'arrête pas sur un plateau parce qu'on trouve qu'on y est bien, mais qu'on se donne un nouvel objectif. Et puis ça donne un cadre aussi, se dire finalement, en 18 ans, si on fait une dizaine de livres par an, c'est pas tant de livres que ça, donc on permet de circonscrire assez bien le travail qui nous reste à faire, avant de prendre une retraite bien méritée.
Alors, je voudrais faire un focus sur l'édition d'œuvres du patrimoine. Alors, je pourrais citer Géry, Gustave Doré, dernièrement donc Benjamin Rabier ou Gareth Price. En quoi c'est important pour vous ce secteur de l'édition et la présentation de ces œuvres du patrimoine?
Ça a toujours été un pendant naturel dans notre esprit, l'idée d'avoir un catalogue qui était d'abord ancré dans la très jeune création et dans la création contemporaine, et en même temps, ce savoir qu'on s'inscrit dans une histoire plus globale, ça nous paraissait fondamental. Et ça naissait aussi cette envie à l'époque d'une frustration de lecteur. Entre le peu de livres qu'on trouvait en bibliothèque sur ces années-là et le travail que faisaient à l'époque les éditeurs, il y avait quand même un gros trou, quoi. Où souvent des livres anciens, des choses qui nous paraissaient être des jalons importants, étaient simplement indisponibles à la lecture. Et c'est ça qui nous a permis de nous formuler que c'était réellement de la responsabilité des éditeurs de le faire. Quand on travaille avec un auteur ou une autrice vivante, il y a quelqu'un au bout du fil qui veut que son livre sorte et qui nous pousse à travailler dessus. C'est vrai que sur tout ce qui est le patrimoine de la bande dessinée, c'est aux éditeurs de se prendre en main pour dire, ben, en fait, ça, c'est plus disponible, mais c'est nécessaire que le lectorat y ait encore accès. Donc, faisons ce travail-là. Donc ça, c'était l'envie de départ, qui était une sorte de prise de conscience de cette responsabilité inhérente au fait d'avoir créé une maison d'édition. Et après, dans le choix des projets, on a toujours fonctionné un peu comme pour le reste du catalogue, d'ailleurs, c'est-à-dire sur une envie mutuelle, Simon et moi, et assez évidente. Je dirais qu'on a toujours cherché à publier des livres en patrimoine qui nous procuraient toujours, encore aujourd'hui, un vrai plaisir de lecture. Et se concentrer sur des œuvres qui nous paraissaient encore... Enfin, l'idée, c'était vraiment de ne pas faire de la branche patrimoine du catalogue un endroit poussiéreux. Et d'ailleurs, on n'a jamais traité visuellement ces bouquins-là différemment. Ils sont peu identifiés dans une collection. Alors, il y a un petit entorse à ça, c'est la collection qu'on a pour le coup avec la BNF, où c'est vrai que pour les œuvres qu'on a choisi de coéditer avec la Bibliothèque nationale de France, on a un peu normé les formats, mais finalement, c'était d'abord... conjoncturel, parce que les trois premiers livres qu'on a fait avec eux avaient un format original qui est à peu près le même. Bon, une fois que le code était lancé, c'est vrai que c'était plus simple de continuer. Mais bref, je me suis un petit peu perdu.
Non, mais en tout cas, c'est très bien. Tout va bien.
En tout cas, non, mais c'est vraiment... c'est à la fois légitimer le travail de tous ces jeunes gens avec qui on défriche le paysage de la bande dessinée, et puis... C'est toujours hyper enrichissant, en fait. Et puis savoir que ce qu'ont inventé les gens il y a un siècle, ça évite de tourner en rond. Ça permet de chercher mieux et plus loin, quoi.
Alors, vous parliez de la nouvelle création. Alors justement, aux éditions 2024, il y a quand même un accompagnement des auteurs qui est poussé, qui est important. Bon, il y a des jeunes comme Léa Muraviex ou Sophie Guérive. On a découvert, grâce à vos traductions, Tom Gold, Simon Roussin, dont on va parler aussi dans l'émission. Alors, comment se fait cette relation avec les auteurs que vous voulez éditer ?
Eh ben, je dirais qu'il faut quand même... C'est ce qui est un mouvement d'ailleurs qui est assez répété dans l'histoire des maisons indépendantes en bande dessinée. On s'inscrit complètement là-dedans. Ce qu'il faut voir, c'est qu'au début 2024, c'est avant 2024, il y a un collectif d'une quinzaine d'auteurs, autrices, plus ou moins pendant nos études et un tout petit peu juste après, avec qui on faisait beaucoup de fanzinas, beaucoup de micro-éditions. Et 2024, c'est vraiment créé comme une émanation un peu plus pro de la dynamique collective qu'on avait à ce moment-là. Et c'est d'abord une bande d'auteurs et d'autrices qui se structure pour avoir un outil d'édition, quoi. Alors ça s'est incarné dans Simon et moi, parce que c'est nous qui avions plus envie que les autres de porter ce projet-là et qu'on a choisi de mettre un peu en sommeil tout le reste pour monter la maison d'édition. Mais on vient d'un milieu d'auteurs, on évolue avec des auteurs et il y a encore une part de nous qui nous considérons quand même d'abord, je ne sais plus, en tout cas, il y a encore une part d'auteur, autrice, enfin d'auteur en nous, à côté de l'éditeur qu'on est devenu. Et ça, je pense que dans la façon dont on accompagne les auteurs, dont on se positionne en tant qu'éditeur vis-à-vis d'eux, bah, ça change fondamentalement les cartes de départ, quoi.
Alors, Olivier Bron, Yafmur qui arrive dans votre catalogue. Alors, là aussi, que pouvez-vous éditer d'Yafmur aujourd'hui ? Est-ce que son œuvre n'intéresse plus les éditeurs habituels ?
Alors, il y a... Ouais, le génie des alpages reste chez Dargo. Il continue d'être travaillé, disponible. Et Dargo travaille sur une série, d'ailleurs, de réédition en intégrale jusqu'à la fin de l'année là. Donc le génie c'est bien pris en main et en charge par son éditeur original. Mais par contre, il y a beaucoup de récits autour de ça dans l'œuvre de Yafmur qui sont soit plus disponibles, soit plus exploités du tout. Et avec donc Elisabeth, Pascal et Barbara, qui s'occupent voilà, du fonds FMU en ce moment, on va travailler sur une série de rééditions de l'œuvre de FMUR à côté du génie. Donc on va commencer par ce qui était son premier livre, qui s'appelle Tartine de clous, qu'on va sortir à la fin de l'année, augmenté de deux histoires inédites, et puis avec un appareil critique. Et on continuera avec plusieurs de ses œuvres marquantes qui sont plus disponibles, comme Jeanne, Jeanne d'Arc, Tim Galère, son petit tarot, le char de l'État. Il y a, voilà, il y a beaucoup de choses en fait autour. Et FMUR est un peu en train de passer dans ce moment de creux là où on oublie un peu qu'il a existé, qu'il a été important. Et c'est un petit peu différent comme positionnement patrimonial par rapport à ce qu'on a sorti jusqu'ici, puisque c'est du patrimoine récent. Voilà, après on n'en a pas moins la certitude qu'il faut faire ce travail-là pour pas qu'il soit oublié, justement. C'est quelqu'un qui a vraiment ouvert des portes à un moment, c'est encore super à lire, c'est drôle. Et donc c'est important que ça reste vivant.
Alors, je voulais juste... vous faites aussi des partenariats assez inhabituels, comme par exemple celui avec les bains municipaux de Strasbourg, où il y a eu ces carnets de bains, trois carnets de bains que vous avez édités, qui, avec la présence de planches de bande dessinée. C'est quelque chose qui va se renouveler ?
Alors, je dirais qu'on a plutôt un petit peu freiné là-dessus ces derniers temps. Il y a eu un moment, c'est lié aussi au développement global de la structure, où pendant très longtemps, l'équilibre financier était quand même très précaire. Hein, donc et on a eu un peu cette velléité de développer à côté du catalogue de librairie des projets qui étaient plutôt de la commande, où on répondait à des appels d'offres, ce qui permettait aussi de donner du boulot aux auteurs, autrices avec qui on bosse, voilà, d'une façon... détournés de financer aussi un peu leur quotidien. Les carnets de bains, c'était un projet intéressant où on a suivi la rénovation d'un bâtiment historique strasbourgeois pendant un an, en proposant une fois tous les trimestres une sorte de journal de chantier, quoi. Et là, effectivement, on a fait travailler beaucoup de gens dont on aime le travail dans ces petits carnets, mais ça reste à côté du catalogue, c'était hors diffusion, c'était des petits tirages, quoi. Mais ceci étant, maintenant que le catalogue de librairie a pris son envol et s'est quand même bien implanté, c'est plus épanouissant pour nous de vraiment travailler sur des œuvres de création, quoi. On fait de moins en moins de commandes à côté.
Un projet important pour 2025, Olivier Bon ?
Ouais, il y en a plein. Je dirais qu'il y a un premier projet important qui est de faire en sorte que tous les libraires sachent qu'on a changé de nom. Et après, en termes de livres, je peux parler par exemple du premier livre de Laurie Agusti qu'on va sortir juste après l'été, qui marque un peu un virage dans... Enfin, un virage non d'ailleurs, mais une ouverture dans les thèmes et les livres qu'on a publiés, qu'on peut publier par rapport à ce qu'on a publié jusqu'ici, puisque on suit la dérive d'un jeune homme pris on suit sa dérive masculiniste, voilà, il se documente que sur Internet et puis comme ça il glisse vers le virilisme jusqu'à commettre un attentat et c'est un bouquin assez dur, très ancré dans la société contemporaine pour le coup, avec des problématiques très concrètes. Un dessin qui reste pour le coup très 2024 compatible, hyper impressionnant graphiquement, c'est de toute beauté quoi, avec une technique très lente de gouache lavée comme ça, où les couleurs montent petit à petit, mais ça crée des lumières qui sont splendides. Et typiquement, c'est un type d'ouvrage vers lequel on ne serait pas allé dans les premières années de 2024, ça c'est sûr, où on s'était vraiment dit on refuse l'ancrage dans le réel, on s'ancre dans la fiction, dans l'imaginaire. Et finalement, après 15 ans à faire ce métier, on a aussi des envies qui évoluent un peu, où on se dit bon, maintenant on est aussi capable de faire des pas de côté, de s'écarter un peu de notre fondation principale pour développer ce genre de choses dans le catalogue. Et finalement, le fait de changer de nom à ce moment-là, c'était aussi une façon de dire, bon, on a acquis une certaine maturité, puis 2042 sera certainement un peu plus ouvert comme catalogue que 2024, qui était voilà, qu'on a voulu très cohérent en termes de thématique.
Merci beaucoup Olivier Bron. On va continuer nous à parler des éditions 2024 puisque Simon Roussin donc sera aussi l'invité de l'émission pour parler de Bellas sans monde. Et donc je vous souhaite un très bel Angoulême Olivier
beaucoup,
Bron
ouais.
Et
merci
à
beaucoup
très
pour
bientôt.
Cette invitation et bonne suite d'émission.
Merci. Au revoir. Avec Clément Jefferson et la grande aventure, Simon Roussin crée le premier livre des éditions 2024. Il inscrit son œuvre dans une mise à distance ironique des poncifs de l'aventure en bande dessinée, des récits de genre à l'imaginaire convenu. La mise en couleur ou feutre de couleurs vives dynamitait déjà à elle seule l'espace narratif classique de la bande dessinée. 13 ans après ce premier livre, Simon Roussin reprend ses feutres et publie « Bella sans nom », autour du fils de Lemon Jefferson, quitté à la dernière vignette du premier livre. Simon Roussin se libère des carcans de la suite classique. Imagine un retour du fils au pays natal après plus de 2 siècles. Bouleverse le monde de départ, crée d'autres pouvoir, d'autres aliénations, donne une place différente aux personnages féminins, reprend des personnages comme Silence ou Le Colosse avec d'autres rôles. Bella sans nom est une expérience de liberté. Simon Roussin fait de la bande dessinée à partir d'un espace vierge où sont convoqués en toute conscience les récits et œuvres qui ont marqué nos imaginaires en les utilisant pour nous convier à d'autres expériences narratives. L'œuvre de Simon Roussin se compose par touches successives. Les Vivants, son livre précédent, réalisé avec 2 scénaristes, a été largement primé, célébrant sa liberté de création. Bella sans nom est le premier livre des éditions 2042 qui fait suite aux éditions 2024. Nous sommes avec Simon Roussin pour qu'il nous immerge dans cet univers de couleurs au feutre. Bonjour Simon Roussin.
Bonjour.
Alors, pourquoi ne pas avoir relu Lemon Jefferson pour écrire et réaliser Bella sans nom?
Oui, c'est vrai que je l'ai pas relu au moment de l'écriture. Enfin, je l'ai relu à une fois le livre terminé, en fait. Disons que l'idée d'une suite à Lemon Jefferson, ça a toujours été de l'ordre un peu de la blague entre mes éditeurs et moi. C'est-à-dire que pendant des années, on se disait pourquoi pas réaliser une suite. Moi, j'en voyais pas l'intérêt, je voyais pas ce que j'avais d'autre à raconter. Et puis petit à petit, avec les années, les projets différents, j'avais aussi une envie qui revenait surtout de retrouver le feutre et de retrouver le feutre pour faire une bande dessinée. Et puis l'échéance 2024, l'année 2024 arrivait, je me disais, c'est drôle si... Il y a quelque chose d'un peu symbolique de revenir à Lemon Jefferson au moment où on arrive à l'année 2024. Et puis j'ai commencé à réfléchir comme ça rapidement à ce que je pourrais raconter en me disant bon, il faudrait quand même que je le relise parce que je ne l'avais pas relu depuis sa sortie. Et puis en fait, plus je réfléchissais à cette histoire, moins j'avais la nécessité de relire Lemon Jefferson. Donc, au bout d'un moment, je me suis dit bon, je vais utiliser cette non-lecture, enfin, c'est-à-dire que je vais cet oubli de Lemon Jefferson va me servir pour construire l'histoire de Bella sans monde, c'est-à-dire que en fait, je fais pour moi ça c'est moins une suite de Lemon Jefferson que plutôt, comme vous l'avez dit, un petit peu une variation, une réutilisation de codes, de personnages, mais dans des nouveaux rôles, dans comme si l'univers était le même, mais avec un pas de côté, un tout petit peu décalé, réinterprété, pas par une autre personne, mais en tout cas à un autre moment. Et je pense que, effectivement, 13 ans entre les deux livres, c'est assez pour que mon point de vue ait changé presque aussi malgré moi sur la bande dessinée d'aventure, sur mes premiers livres, et puis, sur la bande dessinée de manière générale.
Alors Simon Roussin, Bella sans monde, c'est tout de suite un décalage temporel. À quel moment est arrivée cette idée de distancier ainsi les deux récits ?
En fait, c'était aussi pour vraiment acter ce décalage avec le premier livre, c'est-à-dire de pas en faire une suite officielle, un tome 2 avec le tome 1 à lire obligatoirement, mais de se démarquer aussi dans le temps avec le premier livre. Et puis surtout, comme je l'ai dit, comme je n'avais pas relu Lemon Jefferson, j'avais envie que les souvenirs flous que j'avais du premier livre, parce que vraiment, on pourra en reparler, mais certains personnages, par exemple, il y a un personnage muet dans Bella sans monde, je l'ai créé muet parce que j'étais persuadé qu'il était muet dans Lemon Jefferson, alors qu'il ne l'était pas du tout. Mais donc voilà, en fait, mes souvenirs vraiment très flous et parcellaires un peu de Lemon Jefferson, j'avais envie de les utiliser pour construire mon histoire, donc pour en faire une histoire sur l'oubli aussi, de me dire, bon, si les événements de Lemon Jefferson étaient aussi oubliés dans Bella sans monde, c'est-à-dire que 250 ans ont passé et donc ces événements-là sont devenus des légendes orales, des histoires racontées, des choses donc avec une part de mensonges, de fabulation, de voilà, et c'est tout ce système-là de récits qui m'intéressait.
Alors Simon Roussin, vous utilisez vous êtes très sensible au récit de genre et votre œuvre en est la preuve, mais comment vous mettez-vous à distance de ces archétypes de gens que l'on trouve dans beaucoup de récits, dans beaucoup de narrations? Alors comment se met en place vos récits par rapport à ça?
Oui, c'est en fait dans votre introduction, vous avez parlé d'ironie pour parler de Lemon Jefferson. C'est vrai que en fait, à l'époque, je me souviens que j'avais essayé de trouver un ton qui, à la relecture, je le trouve un petit peu bancal, mais quand même, justement, en essayant de me méfier du second degré, de la parodie et donc un petit peu de l'ironie, c'est-à-dire que j'essayais d'aborder le récit de genre avec un peu de naïveté, en tout cas de premier degré, suffisamment poussé en me disant que
En fait, d'aborder un récit de genre comme ça, très archétypal, très avec beaucoup de clichés, au premier degré, aujourd'hui, ferait de toute façon naître un second degré, une distance, etc. Donc, en essayant d'être le plus sincère possible dans la démarche, et comme de toute façon ce système de récit est un petit peu anachronique aujourd'hui, enfin voilà, en fait, de l'aborder au premier degré. Me permet d'y mettre de la distance quoi qu'il arrive. Alors après, je dis ça, mais je suis aussi très conscient de la partie jeu que ça implique, c'est-à-dire que bon, je sais que je pousse un petit peu les curseurs, que les méchants vont être sanguinaires, horribles, que les héros naïfs vont être presque idiots. Enfin voilà, tous les caractères sont quand même comme ça très exacerbés, ce qui fait qu'on j'ai l'impression de comme ça travailler un peu avec des essences de personnages, enfin de des archétypes très très voilà très très caractérisés, très typés, connus un peu de tous, et de partir de ces archétypes me permet d'un peu de les pervertir de l'intérieur, quoi. Il y a quelque chose comme ça un peu de m'immiscer là-dedans un peu en souterrain, et puis en fait de faire exploser tout ça un peu de manière silencieuse.
Et donc alors, avec Bella sans monde, est-ce qu'il n'y a pas une mise à distance de ce principe ?
Bien sûr, oui, en fait, avec Bella sans monde, c'était encore plus différent, c'est-à-dire que en l'écrivant, mon envie de départ, c'était aussi de faire un livre sur... qu'est-ce qu'un récit d'aventure aujourd'hui, et puis à quoi ça sert de faire un récit d'aventure aujourd'hui, et après avec tout ce qui a existé, tout ce qui est avant nous, est-ce que la fiction, le récit comme ça, épique et tout, a encore une place en 2025? Et c'est vrai que mon principe, en tout cas ce que j'avais en tête, c'était de faire un récit d'aventure empêché, c'est-à-dire que mon personnage Bella revient chez lui. Lui pense que 25 ans ont passé, qu'il est parti en exil et qu'il revient sur les traces de son père, sur les traces en fait du premier livre, alors que le monde autour de lui, deux siècles sont passés et tout a été oublié. Donc lui veut vivre son aventure, veut vivre une aventure classique comme le premier livre, et tout l'en empêche. À chaque fois, il est arrêté par des... Alors il y a quand même, en fait, le premier Damon Jefferson travaillait beaucoup sur la péripétie, sur le rebondissement un peu incessant comme ça, extravagant, avec beaucoup de coups de théâtre, un peu à la manière des récits feuilletonesques. Et là, j'avais envie que le récit, il y a beaucoup de surprises, il y a beaucoup de révélations, mais c'est toujours au service d'une espèce de surplace. En fait, le personnage n'avance pas, il est toujours empêché d'avancer, d'aller au but, de vivre son aventure. Et donc le récit avance que par retour en arrière, récit rapporté, pièces de théâtre, écroulement du décor, des choses comme ça, qui font que l'histoire stagne un petit peu.
Simon Roussin, comment procédez-vous pour écrire vos récits, vos dialogues? Est-ce que le dessin est convoqué tout de suite? Est-ce qu'il y a une vision globale préalable à la mise en image?
Alors, j'ai une vision globale du récit. Je commence par rédiger, on va dire, un synopsis, ou en tout cas une histoire un petit peu avec les étapes, les grandes étapes du récit, avec les passages obligés, ce que j'aimerais raconter. Et ensuite, en fait, le dessin à ce moment-là vient pas, même si c'est des envies de dessin, elles viennent par le texte. Je me dis, ah, j'aimerais dessiner un personnage qui ne parle qu'en geste, voilà, je sais pas, une grotte pleine de cristaux, des choses comme ça. Donc c'est des idées d'images, mais elles sont plus mentales que vraiment, elles sortent pas tout de suite par le dessin, en tout cas. Et ensuite, en fait, je crée l'histoire au fur et à mesure, de séquence par séquence, parfois même page par page, à découper, à dialoguer, ce qui me permet de garder un petit peu de liberté, d'agencer ou de faire intervenir des choses qui sont mes lectures à l'instant T, enfin voilà, des choses qui nourrissent l'histoire au fur et à mesure de sa création. Et voilà, c'est comme ça que je procède. Ça me permet de garder. C'est pas vraiment de l'improvisation parce que quand même le cadre est assez voilà, dans ma tête, je sais à peu près où je vais, je sais, je ne change pas la fin au dernier moment, etc. Donc j'ai pas de mon histoire est quand même assez verrouillée, mais mine de rien, comme l'histoire avance aussi un peu par fenêtre, je me permets de rajouter un épisode, rajouter la rencontre avec un personnage. Voilà, je sais pas, je pense comme ça un moment dans le livre où un personnage révèle un petit peu qu'il est une sorte de chaman, enfin voilà, il y a une espèce de rituel chamanique autour du feu et ça fait écho à une lecture que j'ai eue pendant que je faisais le livre et qui m'a fait penser à ce personnage-là et je me suis dit ah tiens, je vais l'intégrer justement dans son caractère et voilà.
Il y a aussi dans Bella sans monde une façon d'utiliser les récitatifs différemment que dans Lemon Jefferson et La Grande Aventure. Alors là aussi, comment les avez-vous travaillés et comment se travaillent aussi les dialogues? Est-ce que vous les exprimez pour être sûr de leur fonctionnement?
Oui, alors en fait, j'avais un souvenir de Lemon Jefferson et de mes premiers livres de manière générale, avec une écriture assez ampoulée, un truc très très un petit peu trop quoi, enfin vraiment un petit peu trop verbeux, un petit peu trop voilà, grandiloquent et tout lyrique. Et bon, ce qui allait avec un peu le propos de Lemon Jefferson, de ses premiers livres, mais là, j'avais envie de simplifier un petit peu l'écriture et en fait de contrebalancer le on va dire la folie, la fureur du feutre, quoi, le côté un peu foufou des couleurs fauves, de la vibration. En fait, le feutre apporte tellement d'impact aux pages que je voulais que le texte le contrebalance en étant un petit peu plat, un peu en tout cas dans les récitatifs, il y a quelque chose de très voilà, au présent comme ça, très très factuel, un petit peu calme comme ça, et qui permettait de à la fois je me suis dit que ça pouvait aussi apporter de l'émotion, apporter de l'interprétation en tout cas par le lecteur, une manière de rendre le lecteur aussi actif à interpréter un peu ce qu'il voyait. Et voilà, pour ce qui est des dialogues, en fait, oui, je les écris au fur et à mesure, et puis bon, j'essaye qu'ils sonnent bien. Après, c'est vrai que j'ai parfois des automatismes dont j'essaye de me libérer, enfin des expressions, des choses. L'écriture, ça a toujours été un peu j'allais dire mon point faible, mais en tout cas le domaine dans lequel j'ai le plus de mal, ou en tout cas je me pose le plus de questions, où je suis le moins sûr de moi. Et donc là, pour ce livre-là, j'ai essayé d'aller au plus simple. Alors, je me suis pas empêché quelques figures de style un petit peu lyriques et tout, mais d'être un peu plus direct, en tout cas dans l'écriture.
Simon Roussin, je vous propose une pause musicale. On se retrouve donc dans quelques minutes et on parlera plus particulièrement de couleurs et de dessins. À tout de suite. Thank you. Vous êtes sur Radio Escapade, nous sommes avec Simon Roussin pour la parution de son dernier livre, Bella sans monde, aux éditions 2042. Simon Roussin, quel rapport avez-vous avec la mise en couleur? Parce que alors pour un premier livre, faire une telle mise en couleur au feutre, c'est quand même assez audacieux.
C'est vrai que bon, le feutre, on a beaucoup parlé du feutre quand mes premiers livres, Robin Hood et Lemon Jefferson, sont sortis. C'était des projets d'études, en fait. J'étais étudiant à Strasbourg et c'était mes projets de diplôme. Bon, à l'époque, il n'y avait pas, enfin, c'était en 2011, il n'y avait pas encore la mise en couleur numérique, il n'y avait pas d'iPad, etc. Je dessinais sur papier et puis j'étais pas, je pense que j'étais pas très doué pour la mise en couleur. Enfin voilà, j'avais pas de, je savais pas trop utiliser la gouache, les différentes couleurs, etc. Enfin bon, bref, et je faisais du feutre dans mes carnets, dans mes carnets de recherche. Et puis à l'époque, c'était aussi un moment où je voulais faire donc ces récits d'aventure qui étaient très naïfs, qui étaient liés aussi à mes lectures enfantines. Donc et puis je lisais beaucoup aussi de comics un peu primitifs, quoi, les comics des années 30, 50, avec des couleurs parfois mal imprimées, très très flashy comme ça. Donc voilà, il y a eu un cheminement de pensée qui m'a fait me dire, bon voilà, le feutre est aussi cohérent avec ce que je veux raconter à ce moment-là. Donc c'est comme ça que j'ai commencé à colorier au feutre. Mais bon, même à cette époque-là, mon deuxième projet de diplôme était Heartbreak Valley, qui est devenu un livre chez 2024. En fait, j'ai toujours essayé d'utiliser la couleur de manière en essayant de réfléchir à ce qu'elle racontait et au projet qui allait avec. C'est-à-dire que par exemple, voilà, un récit en Barthélémy, l'enfant sans âge, qui était édité chez Cornelius, qui était un récit en strip, qui faisait référence au strip qui paraissait dans les journaux d'aventure, etc., était imprimé en rouge et vert parce que ça, c'était les couleurs qui étaient imprimées dans les journaux au début du XXe siècle. Et puis voilà, à chaque fois j'essaie de trouver la bonne manière de raconter l'histoire avec la bonne mise en couleur. Mais c'est vrai que le feutre, je pense que ma technique aussi a évolué, c'est-à-dire que dans Lemon Jefferson, la mise en couleur était quand même somme toute assez classique. Enfin, c'était des aplats remplis au feutre, mais quand même avec une mise en couleur avec des formes remplies. Et petit à petit, avec le temps, j'ai fait par exemple Le Bandit au Colt d'Or aux éditions Magnani, qui est un western avec des grandes doubles pages où pour la première fois j'essayais d'utiliser le feutre un peu de manière un peu plus picturale, parfois en démarrant par la couleur et puis en mettant le trait ensuite, des choses comme ça. Et puis ma série de dessins sur le cinéma qui m'a permis aussi pendant des années de un peu d'expérimenter des choses dans la mise en couleur, dans les coulures, dans les effets de juxtaposition de feutre. Et mine de rien, la découverte de la peinture à l'huile aussi, il y a 5-6 ans, m'a permis quand même de je pense de changer ma manière de dessiner, de mettre en couleur, et je le ressens quand même dans Bella sans monde. Je trouve qu'il y a un geste de mise en couleur qui est pas tout à fait le même que dans mes travaux précédents.
Est-ce que, comme pour le récit, il y a est-ce que vous imaginez les mouvements de cette mise en couleur tout au long du récit avant vraiment de la réaliser?
Un peu moins, c'est-à-dire que pour le feutre, j'essaye quand même d'avoir un rapport très instinctif à cette mise en couleur. Enfin, ce qui me plaît aussi, c'est que bon, j'ai fait d'autres livres, par exemple, avec des tons limités, des couleurs limitées que je remplis sur Photoshop, enfin sur ordinateur. Et bon, là où la retouche est possible, je peux changer de couleur au dernier moment, etc. Alors que le feutre, il n'y a pas de repentir. Je fais ma couleur sur mes originaux. Et ce qui me met dans un état de concentration assez particulier que je retrouve pas dans d'autres techniques, en fait, enfin dans d'autres, en tout cas pas dans d'autres manières pour de faire des livres. Et c'est vrai que j'aime bien ça. Enfin, j'aime bien ce aussi. Je me dis que bon, j'ai le droit à l'erreur, j'ai le droit de rater. De si je prends pas le bon feutre au bon moment, bon bah je fais avec, je rattrape autrement. C'est-à-dire que c'est une mise en couleur qui est quand même assez. J'ai bien sûr maintenant, ça fait voilà plus de 10 ans que j'utilise, donc je sais comment ces feutres-là réagissent au papier, à la juxtaposition. Enfin voilà, il y a plein d'automatismes de savoir-faire qui se met en place, ça c'est sûr. Mais quand même, il y a, je garde une forme de d'inédit. Enfin en tout cas de décider un peu sur le moment de quel feutre je vais utiliser. Et je pense que pour ce livre-là, je me suis un peu surpris à utiliser des feutres que j'utilisais moins avant, c'était des teintes de violet, de rose, de marron, de vert kaki notamment, des choses comme ça, qui n'étaient pas des teintes que j'utilisais très régulièrement. Et pourtant, voilà, avec une boîte de feutres, les possibilités sont limitées. J'ai que deux boîtes, ça fait, je sais pas, une cinquantaine de nuances, mais dans ces 50 nuances, il y a, je sais pas, 5 bleus, 4 verts, 4 marrons. Enfin, finalement, les possibilités sont assez limitées. Mais voilà, je garde quand même. Enfin, ça me permet quand même de créer. Je sais que je veux quand même créer des moments de nuit, de jour, de passage du temps. Donc, j'essaie de créer des ambiances différentes, tout en sachant que le feutre va de toute façon aplatir un petit peu tout ça, et est tellement vibrant et tellement fort que la profondeur de champ sera forcément un petit peu aplatie, que voilà, les effets de jour, de nuit seront pas complètement précis, mais je sais que ça rajoute de l'irréel à l'histoire, et ça me va bien dans ce propos-là.
Simon Roussin, et pour le dessin, comment ça se passe? Là, par exemple, on a Silence, qui utilise la langue des signes. Il y a un trait qui est d'une grande finesse. Quel dessinateur êtes-vous, Simon Roussin?
Je sais, c'est un peu compliqué. C'est-à-dire que, en fait, je suis pas un dessinateur. J'allais dire un dessinateur fou, c'est-à-dire un dessinateur un peu relâché qui va dessiner toute la journée sur des carnets, remplir et tout. J'ai quand même un dessin qui est très lié à ma manière de raconter des histoires, c'est-à-dire que j'imagine, enfin le dessin arrive parce que j'ai quelque chose à raconter, et parce que voilà, ce que j'aime c'est découper, trouver les bons axes de vue, les bons plans, le bon rythme. Donc le dessin vient vraiment avec l'idée de raconter. Mais c'est vrai que par contre j'aime bien aussi imaginer, trouver des astuces ou des manières de passer des idées par le dessin. Et par ce médium de la bande dessinée, voilà, le passage du temps, une discussion en langage des signes. Bon, bah, en bande dessinée, comment créer un personnage qui ne va pas s'exprimer par les mots, et ce qui serait très facile au cinéma, enfin voilà, de faire bouger avec des signes et puis de faire bouger des mains, mais ce qui est un peu plus compliqué avec des images arrêtées. Mais voilà, c'est comme ça des espèces de codes graphiques, de choses qui m'intéressent, qui est au service toujours de la bande dessinée, d'un récit qui avance par cases. Je suis quand même assez attaché à un découpage assez classique de la bande dessinée, enfin voilà, en cases, en bulles de dialogue, etc., avec un rythme qui aide à tourner les pages. Donc j'ai un dessin qui est vraiment au service de la bande dessinée. En tout cas, quand je fais de la bande dessinée, il m'arrive de faire de la peinture ou des images un peu pour des affiches, des choses comme ça. Ça, c'est vraiment une autre pratique du dessin. Mais pour ce qui est de la bande dessinée, voilà, je suis très en fait au service de mon histoire, quoi. Donc il faut que ça soit lisible, il faut que ce soit clair, que les personnages soient bien campés, mais que qu'en même temps je me laisse aussi la place pour être assez généreux dans le dessin. C'est-à-dire que par exemple l'idée de faire passer le temps par le dessin et pas par le récitatif, j'aime beaucoup ce dispositif-là qui est du coup de par exemple de refuser de d'écrire dans un coin de la page 2 jours plus tard ou un peu plus tard ou le lendemain matin, des choses comme ça, mais plutôt d'essayer de faire passer ces idées-là seulement par le dessin. J'aime beaucoup ça et ça me permet aussi d'être de créer des moments muets, des passages de paysages, de passages de jour à la nuit, de tout d'un coup des grandes doubles pages qui vont un peu mettre une pause dans le récit. À la fois, elles me servent pour effectivement travailler sur la bande dessinée, travailler sur cette idée d'ellipse, de passage du temps. Et à la fois, c'est aussi des moments où je me fais plaisir avec le dessin. Je sais que je vais faire des grandes doubles pages, des grands paysages au feutre et tout, et que ça, c'est aussi un plaisir de dessinateur.
Simon Roussin, vous êtes aussi adepte d'une régularité dans la mise en image, notamment avec une hauteur de bande d'image régulière, avec quelques variations, mais qui sont relativement minimes. Vous avez évoqué ces doubles pages ou ces pleines pages. Quelques auteurs, chez les Américains, il y a Sean Phillips, par exemple, qui est adepte aussi de cette régularité. Qu'est-ce qu'elle vous permet, Simon Roussin ?
Disons que je ne sais pas, j'ai trouvé ce découpage, en tout cas, ce gaufrier en 9 cases, sur 3 bandes, qui me va bien. En tout cas, j'ai l'impression que c'est un rythme qui me convient bien. Pour une page, je sais que j'ai un rythme comme ça. Comme je découpe au fur et à mesure, j'aime bien avoir en tête le matin, avant de mettre à ma table, ce que va être cette première case et ce que va être cette dernière case de la page. Donc, d'avoir une idée globale de la page qui me permet d'aller à la suivante et comme ça de travailler séquence par séquence. Je sais qu'une séquence va me prendre 2-3 pages, peut-être parfois plus, mais en tout cas, j'ai vraiment cette idée de découpage page par page. Et je sais pas, je pense que je serais un peu, par exemple, je parle parfois avec des collègues d'atelier ou autres de découpage en 4 bandes, de découpage plus dense, de mettre plus de texte, etc. Et je pense que je serais un peu perdu avec ça. Moi, en fait, mes pages sont assez économes finalement. Enfin, il y a 9 cases, c'est quand même assez court. Et puis, mes bulles de dialogue sont jamais trop longues. Et je crois que c'est un rythme qui me va bien. C'est aussi que ce que j'aime bien dans la bande dessinée, faire vraiment aussi confiance au dessin, c'est-à-dire de me dire que c'est pas que du texte illustré, enfin qu'il n'y a pas que du texte à lire et ensuite un peu à se reposer sur les images pour comprendre le texte, mais c'est parfois plutôt l'inverse. J'aime bien qu'il y ait vraiment des passages où qu'on soit attentif à ce qui se passe par le dessin, à ce qui se passe surtout par les résonances d'une case à l'autre, le passage des choses qui sont pas montrées justement et qu'on devine entre 2 cases, entre 2 pages. Le moment de tourner une page fait qu'on a une ellipse de temps qui se fait, donc le lecteur doit aussi être actif par rapport à cette ellipse et se poser la question de combien de temps est passé, etc. Donc je pense que c'est pour ça que le rythme est assez régulier et 9 cases, ça va vite pour tourner la page. Et en même temps, comme il y a peu de texte, je pense que en tout cas, mon intention, c'est que un lecteur attentif puisse un peu s'imprégner du dessin et prendre du temps à regarder les cases. Après, en pratique, je sais aussi qu'une bande dessinée se lit plutôt vite et que s'il y a moins de texte, ça peut se lire encore plus vite. Mais bon, je sais pas, je pense aussi que c'est possible de d'apprécier une bande dessinée en s'attardant case par case et en comprenant que un dessin, une case sans texte est aussi une case sur laquelle il faut s'attarder.
Merci beaucoup, Simon Roussin. Je vais rappeler les références de votre dernier livre, Bella sans monde. Donc, c'est un roman graphique de 88 pages. C'est publié par les éditions 2042, qui ont fait suite aux éditions 2024. Et son prix est de 25 €. Le tirage initial est de 5000 exemplaires. Merci, Simon Roussin, et très bonne continuation.
Merci à vous.
À bientôt. Au revoir. Voilà, c'était donc un focus sur les éditions 2042 ex-2024. Il y avait une petite pétouille au moment de l'entretien, mais donc pour ceux qui auront la chance d'écouter samedi, eh bien, il n'y aura plus rien. Alors, merci Marin pour cette émission et pour l'entretien avec Simon Roussin. Et puis, nous nous retrouverons la semaine prochaine parce qu'il y a des auteurs qui ne vont pas à Angoulême. Et moi non plus d'ailleurs. Et donc, j'accueillerai Emma Siniavski et peut-être une autre invitée. Parce que cette année, bien, c'est Posy Simons qui est la présidente du festival qui a été primée pour l'ensemble de son œuvre. Et c'est important d'appuyer fortement, puisque dorénavant, le nombre d'autrices dans la bande dessinée est remarquable. Très bonne semaine à tous sur les ondes de Radio Escapade. Écriture dessinée.